Europe 1. Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quand ce matin, en arrivant à la rédaction, j'ai dit bonjour Stéphane à Stéphane Bern et qu'il m'a dit appelez-moi maître, je me suis dit que décidément le succès d'audience de Secret d'Histoire lui montait à la tête. Mais non, hein.
Non Mathieu, bonjour, bonjour à tous. C'est simplement, vous m'avez appelé maître parce que c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. C'est le point commun qui relie nos trois personnages du jour. Ce sont les grands avocats de l'histoire. Alors, parmi nos trois personnages, si je vous dis Gisèle Halimi.
Elle nous a quittés dernièrement, c'était une immense avocate.
Ah bon, d'accord. Maintenant, si je vous dis Pierre-Antoine Berryer.
Ah bah, je sais pas.
Non mais, et la rue Berryer, etc. La grande conférence des avocats et tout.
Non, ça ne dit rien, non.
Ah, pour vous, c'est un illustre inconnu. Bon, oui. L'histoire officielle, là, c'est vrai, un peu oublié.
Ah bah, un petit
et pourtant,
peu quand même.
Et pourtant, ses contemporains disaient de lui qu'il était le plus grand avocat depuis Mirabeau. Je vous dresse le portrait de ce maître injustement oublié, alors. Enfin, Mathieu, j'imagine que vous aussi, vous vous êtes élevé à la hauteur de notre thématique du jour, les grands avocats de l'histoire. De quel maître plus récent vous avez choisi de nous parler ?
Je n'ai pas choisi de vous parler de lui, Stéphane. De lui, choisi, j'ai de vous parler. Pas bien compris quand et comment il avait eu son barreau, mais je vous parle de Maître Yoda.
Ah bien, bien, bien.
Dis donc, je vous sens pas très emballé par mon troisième personnage, Stéphane. Ben, c'est l'avocat de la cause Jedi.
Oui, ah, voilà, voilà. Alors oui,
mais si vous n'y connaissez rien, c'est votre problème,
alors,
mon grand.
Autour de nous sont la preuve que la force est avec nous chaque après-midi. Sur Europe 1, ce sont nos chroniqueurs. Et elle, par exemple, vous savez, elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde. J'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour, messieurs. Bonjour. Mais moi, là, je ne vais pas m'élever jusqu'à vous. Je vais plutôt descendre jusqu'à vous. Alors, savez-vous que aujourd'hui.
Quelle
c'est plutôt ce à quoi je suis habituée, hein, excusez-moi, mais bon.
Alors, heureusement que c'était nos anniversaires et pas nos fêtes, Stéphane. Hein, qu'est-ce que ça sera,
est-ce que vous savez, messieurs, qu'aujourd'hui, plus de la moitié des avocats sont des femmes, hein? Alors,
j'en connais.
Quand on va au musée du barreau parisien, on n'en a guère l'impression, parce que ce musée qui est consacré aux grands avocats de notre histoire concerne essentiellement des hommes. Hein. Chauveau, Lagarde, l'avocat de Marie-Antoinette, Laborie, le défenseur Malzer. De Zola, et Malzer, bien sûr, Stéphane, Isorni, l'avocat du maréchal Pétain. Et au milieu des objets personnels et autres extraits de plaidoiries ou péroraisons de ces ténors du barreau, le souvenir d'une femme est pourtant quand même évoqué. Il s'agit de Jeanne Chauvin, la première femme à avoir pu plaider comme avocate, et c'est d'elle dont je vous parlerai tout à l'heure.
Eh bien, on a hâte, ma chère Clémentine. David Castello-Lopez, chaque jour, vous nous entraînez aux origines d'une invention. Aujourd'hui, une invention qui fait un bruit particulier que vous pouvez peut-être mimer avec votre bouche.
Tout à fait. Alors non, je me suis pas entraîné. Je pense que je suis prêt pour l'antenne.
C'est trop dur.
Non, je me souviens, j'avais fait les origines de la fermeture éclair.
Oui.
Et maintenant, je vais faire les origines du scratch, du velcro. Voilà.
Ah,
une petite thématique qui se dessine de chronique en chronique.
Et le rapport avec les avocats est lointain.
Il est lointain. Laissez-moi 5 minutes et je vais le trouver.
Pas sûr, parce que pour fixer leur épitoge. Peut-être les avocats ont-ils besoin d'un peu de velcro.
Voilà, pour fixer le de quoi est-ce qu'ils ont besoin, les avocats.
Fixer le répitoge, c'est à ça que vous avez pensé. Bravo, David.
Olivier. Une petite hermine.
Moi, j'ai pensé à ce qu'ils pouvaient éventuellement manger le soir en rentrant chez eux après
c'est
avoir
brave,
plaidé.
C'est principal la nourriture, parce que tout le monde en mange. Donc, du coup, ça va avec tous les sujets.
Non, vous savez, pour cela, Olivier, il ne faut pas arriver en retard chez soi. Parce que si vous êtes en retard,
le soufflet
retombe.
Il retombe.
Un soufflet.
Il faut être très ponctuel. Je vous donnerai la recette infaillible pour réussir ce soufflet qui, effectivement, vous commande de passer à table quand lui l'a décidé et non pas l'inverse.
Enfin, Stéphane, à l'issue de cette saison et après 290 défaites dans le quiz, il vous faudra un très bon avocat pour réussir à faire croire à nos auditeurs que vous y connaissez quand même un peu en histoire. Au procès de votre culture générale, Burn to be Alive, notre célèbre quiz sera une preuve accablante contre vous. Ce sera vers 5h moins le quart. Mais tout de suite, plongeons dans notre thématique du jour à la rencontre d'un immense avocat injustement oublié, en tout cas par moi, qui a laissé son nom à une joute d'éloquence déjantée, Pierre-Antoine Berryer.
Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Compte en commun, le maréchal Ney, l'écrivain Chateaubriand et le prince Louis-Napoléon Bonaparte. Ces grands personnages qui ont marqué le 19e siècle ont tous les trois été défendus par Pierre-Antoine Berryer. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il a marqué de sa voix l'histoire des avocats tour à tour, présentés comme le prince de l'éloquence, le ténor du barreau de Paris, le défenseur des libertés. Il est né il y a 230 ans à Paris, le 4 janvier 1790. Au collège des oratoriens de Juilly, où il étudie en Seine-et-Marne, l'élève Berryer fait de belles rencontres. Christian de Chateaubriand, neveu du célèbre écrivain, ou encore Jérôme Bonaparte, frère du futur empereur. Il se destine à l'église, mais il est refusé au séminaire. Écarté du droit chemin, c'est son père qui le pousse dans le chemin du droit. Pierre-Nicolas Berryer est un célèbre avocat spécialisé dans les affaires commerciales, dont la renommée est telle que son fils écope du surnom de Berryer-fils. Très tôt, il repère chez son fils les qualités du parfait orateur. Un visage noble, une voix qui porte et une gestuelle qui accompagne le verbe. Immédiatement, après l'obtention de sa licence de droit, Pierre-Antoine Berryer s'inscrit au barreau de Paris. Il a 21 ans. Séduit un temps par Napoléon, le jeune avocat se range vite dans le camp des légitimistes. Et il le restera toute sa vie. Monarchiste convaincu, il souhaite donc le retour sur le trône des héritiers de la famille des Bourbons. En 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo, c'est la seconde restauration. Louis XVIII monte sur le trône. Berryer soutient profondément le roi Bourbon, mais cela ne l'empêche pas de se mettre au service d'anciens dignitaires de l'Empire. Il a une conception si élevée de son devoir et de l'indépendance de la justice qu'il trouve normal de défendre ceux qui ne partagent pas ses idées politiques. Il aide donc son père à défendre le maréchal Ney devant la Chambre des Pairs. S'il fait du bon boulot, il ne parvient pas à éviter la condamnation à mort du maréchal. L'année suivante, Berryer défend le général Cambronne devant le Conseil de guerre. Au lieu d'implorer l'indulgence des accusateurs, il défend son client en mettant en avant ses exploits militaires, sa bravoure et sa fidélité à Napoléon. Il évite ainsi au général la peine capitale. La vie politique de Berryer commence au moment même où les Bourbons sont chassés du trône et remplacés par la branche ennemie, la maison d'Orléans. C'est la monarchie de Juillet, mise en place à partir de 1830. Son représentant, le roi Louis-Philippe Ier, n'est donc pas légitime aux yeux de Berryer. Il profite de son nouveau rôle de député de Haute-Loire pour défendre avec un formidable talent oratoire la cause légitimiste, celle des Bourbons. Désormais habitué de la tribune, Berryer passe de l'autre côté de la justice en se retrouvant sur le banc des accusés à l'automne 1832. On lui reproche d'avoir soutenu l'insurrection royaliste menée par la duchesse de Berry en Vendée. La duchesse de Berry est la veuve du fils de Charles X, le Bourbon que Louis-Philippe a remplacé. Et c'est la mère, donc, du futur comte de Chambord, Henri V. Si Berryer soutient les Bourbons, il désapprouve le projet de la duchesse, et tente même de l'en dissuader, mais ça ne l'empêche pas d'être accusé. Après un procès de 2 jours, preuves et témoignages à charge sont réfutés et il est acquitté. Berryer se met aussitôt au service de Chateaubriand. L'illustre écrivain est lui aussi accusé dans cette affaire, coupable d'avoir écrit dans la presse « Madame, votre fils est mon roi », en l'occurrence Henri V, trahissant ainsi le régime en place. Grâce au plaidoyer de Berryer, Chateaubriand est acquitté. Par la suite, Berryer plaide aussi dans bien des affaires de presse auprès de criminels, car l'avocat plaide pour tous les opprimés. L'exercice de sa fonction consiste à aider tous ceux qui en ont besoin. L'argent ne l'intéresse pas, il refuse même celui d'un certain monsieur Dehors, dont il a démontré l'accusation à tort en 1836. Acquitté, ce dernier a vendu tous ses biens pour payer son défenseur, mais Berryer n'a pas accepté un seul des deniers de son client. L'exemple le plus fameux de son dévouement professionnel est la défense de Louis-Napoléon Bonaparte suite à la malheureuse affaire de Boulogne en 1840. Le futur empereur comparaît devant la Chambre des Pairs pour avoir tenté de prendre la ville de Boulogne-sur-Mer avec d'autres conjurés. S'il est un excellent avocat, Berryer ne peut pas gagner à tous les coups. Il ne parvient pas à sauver le futur empereur d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Changement de programme, les événements s'enchaînent, Louis-Napoléon s'échappe au bout de 6 ans, devient en 1848 le premier président de la République française et effectue un coup d'État, je le rappelle, en 1851, à la suite duquel il instaure le Second Empire. Berryer quitte alors la vie politique. Il devient bâtonnier, donc le représentant du barreau de Paris. Le 12 février 1852, il est élu à l'Académie française et rejoint ainsi le seul lieu public d'opposition au pouvoir de Napoléon III. Il doit alors rendre une visite d'usage au nouvel empereur. Mais il préfère s'abstenir. Et comme excuse, il a le culot de répondre qu'il serait désagréable pour l'empereur de se retrouver face à son ancien avocat. L'empereur ne lui en tient pas rigueur. Pourtant, en 1863, Berryer, suite au rétablissement des libertés parlementaires, est élu député de Marseille en battant le maire nommé par Napoléon III. En plus des royalistes, les républicains ont voté pour lui par haine de l'Empire et aussi parce que Berryer a pris souvent la défense des travailleurs et des déshérités. Son royalisme sans faille, sa chaleureuse éloquence, sa séduction personnelle en ont fait leur représentant de Marseille. Mais au bout de 5 ans, souffrant, Berryer regagne sa très chic propriété d'Augerville-la-Rivière dans le Loiret où il avait pour habitude de recevoir son cousin Eugène Delacroix et ses amis Rossini, Liszt, Chateaubriand, Alexandre Dumas-fils ou encore Alfred de Musset que Berryer invite souvent pour essayer de le détourner des cafés parisiens. Fidèle à la barre jusqu'à la mort, c'est avec son ancienne robe d'avocat qu'est enterré Berryer quelques mois plus tard. Que l'éloquence judiciaire se voile de deuil, sa plus grande personnification vienne s'éteindre. Devant cette grande gloire, on a vu s'incliner des hommes de tous les partis, s'exclame Maître Bédaride, bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier. Tous, amis et ennemis, lui rendent des hommages appuyés. 10 ans après sa mort, alors qu'une statue est érigée en son honneur près de l'entrée du palais de justice de Marseille, on peut lire dans les colonnes du Figaro « Durant près d'un demi-siècle et tous les régimes les plus divers, on vit Berryer défendre avec un égal dévouement toutes les causes généreuses et tous les intérêts opprimés, qu'il s'agisse de princes ou d'ouvriers, de puissances ou d'exilés. Et s'il avait une préférence, c'était pour les pauvres gens dont il refusait l'argent, après leur avoir sauvé la vie et l'honneur. » Ses talents d'orateur sont enviés par tous les concurrents de la joute oratoire déjantée qui porte son nom depuis plus d'un siècle maintenant. La conférence Berryer. Une véritable institution dans le monde du barreau. Un concours d'éloquence qui voit s'affronter 2 candidats, 2 élèves avocats, sous le regard de leurs aînés, là, pour les juger et d'une personnalité invitée. À chaque fois des invités prestigieux, de Dali à Gainsbourg, de Mime Marceau à Catherine Deneuve. Parce que les avocats doivent avoir réponse à tout. Les concurrents doivent répondre à des questions aussi étonnantes que « Faut-il avoir le cœur sur la main ? Le jour se lèvera-t-il demain ? Ou faut-il ouvrir les portes du pénitencier ?»
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour parler, non pas de Johnny Hallyday, la digression était belle, mais de Pierre-Antoine Berryer, il nous fallait un as de l'éloquence à la barre d'historiquement vôtre. On accueille l'avocat Emmanuel Pierrat. Bonjour cher maître.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Emmanuel Pierrat, vous êtes avocat au barreau de Paris, conservateur du musée du barreau, ancien membre du conseil national des barreaux et du conseil de l'ordre. Pierre-Antoine Berryer a défendu le maréchal Ney, Chateaubriand, le prince Louis-Napoléon Bonaparte. Il a été bâtonnier, membre de l'Académie française, député. C'était un homme plus que brillant. Pourquoi, comment vous expliquez, Maître Pierrat, qu'on l'a quasiment oublié aujourd'hui ?
Peut-être parce que malheureusement, la plaidoirie est un art éphémère, cher Stéphane Bern. Il y a peu de chances qu'on grave dans le marbre les plaidoiries. En tout cas, les mouvements d'éloquence, on peut les écrire, on peut les imprimer, mais on n'arrivera jamais à restituer et à garder la mémoire exacte de ce qu'un grand avocat a pu montrer comme éloquence à la barre, devant les juges, et avoir comme pouvoir, on va dire, de conviction. Ce qui fait que Pierre-Antoine Berryer, pour les gens de justice, parle, parce que son nom reste important dans les concours d'éloquence, mais dans l'histoire est passé derrière la notoriété de ses clients.
Ce que vous dites, Emmanuel Pierrat, c'est que dans le métier d'avocat, l'éloquence ne fait pas tout. C'est aussi la force des conclusions. Lui, il avait cette force de l'éloquence, mais est-ce que c'était un grand avocat aussi, au sens où son travail en amont était aussi de qualité ?
Bien sûr, un grand avocat, ça se définit pas uniquement par l'éloquence. La première question, c'est celle de la connaissance du droit, la maîtrise du dossier. Il faut être absolument infaillible sur la technique juridique. Le deuxième point, ça sera l'argumentation, la rhétorique, la capacité d'aligner les arguments pour convaincre. Parce que le but, c'est de convaincre. Ça n'est pas d'être brillant. C'est d'emporter la conviction des juges qui, jusque-là, se font une idée, on va dire, mitigée du dossier. Et puis, troisièmement, par-dessus, la forme, l'éloquence, les effets de manche, les grandes tirades. En plus, à une époque au 19e siècle où les plaidoiries devaient durer 4-5 heures minimum, quelle qu'ait été la nature de l'affaire. Hein. Ah bon, un litige de copropriété comme la vie d'un homme, c'était minimum 4-5 heures.
Pierre-Antoine Berryer a d'ailleurs écrit dans Leçons et modèles d'éloquence judiciaire, on peut être avocat sans être orateur, mais au barreau, l'on n'est jamais un véritable orateur sans être avocat. Ça résume un peu ce que vous dites, hein, Emmanuel Pirat. Mais c'est son père, je l'ai raconté, qui décèle son talent d'orateur et qui le pousse à quitter ses études religieuses pour étudier le droit. Au fond, ce talent oratoire, il est inné ou on l'acquiert? Est-ce que ça se travaille? Vous qui êtes brillant dans la joute oratoire,
vous êtes brillant dans Emmanuel. Les flatteries, Stéphane Bern aussi pour
oui,
moi.
Oui, bah, vous avez ma syntaxe, c'est un sujet, un verbe, un compliment. Hein.
Évidemment que ça se travaille. Vous le savez, il y a beaucoup de concours d'éloquence. Il y en a dans les lycées, dans les universités, dans les écoles de commerce, un peu partout. On organise des concours d'éloquence parce que ça s'apprend, ça se travaille. On revient à regarder l'art de la rhétorique de Cicéron, à apprendre les 6 parties du discours classique. J'ai même entendu Miracle Mathieu Noël dire le mot péroraison au début d'émission. Donc il y a un savoir, évidemment, dans l'éloquence. Il y a en plus des grandes formes d'éloquence. L'éloquence religieuse, celle à laquelle a échappé Pierre-Antoine Berryer quand son père le déroute les ordres et l'envoie vers le barreau, qui est quand même une éloquence de sermon et on va dire de morale. Il y a une éloquence politique très importante de la tribune, de la chambre, et puis des meetings. Et puis enfin, il y aura une éloquence judiciaire qui a ses caractéristiques propres. Et celles-ci, elles s'apprennent à l'école du barreau aujourd'hui. On fait des concours et on apprend dans des cours d'éloquence en mâchonnant un stylo, en parlant avec un stylo coincé entre les dents pour arriver à être audible, par exemple. Et on apprend aussi à utiliser les tessitures de la voix, il y a des hommes et des femmes, et donc on n'utilise plus nécessairement la tessiture du ténor, qui d'ailleurs est totalement chimérique et inventée. Il y a des barytons, il y a des basses, il y a des sopranos, il y a de tout, du moment qu'il y a du talent.
Alors on va continuer à parler de Berryer en particulier, parce que la conférence Berryer lui rend hommage. Ce concours d'éloquence aux joutes verbales déjantées est une véritable institution dans le monde du barreau. Vous y avez déjà participé vous-même, Emmanuel Pirat?
J'en ai organisé une. Et on avait donc, évidemment, deux élèves avocats, ou généralement aujourd'hui, deux professionnels du droit, voire des gens qui sont dans la vie civile avec des métiers très différents et qui traitent les sujets, vous les avez évoqués tout à l'heure, un tout petit peu, on va dire, absurdes. Moi, je crois qu'on avait déposé comme sujet « L'aventure est-elle au coin de la rue ?» Et il faut la plaider par la négative ou l'affirmative, c'est-à-dire convaincre les juges que oui ou non, l'aventure est au coin de la rue en choisissant de plaider pour ou de plaider contre. L'important, c'est d'être non pas brillant et insolent, mais d'arriver encore une fois à convaincre. Devant un public très houleux, qu'on appelle le peuple de la Berryer, un public qui scande, qui hue, très déchaîné, et c'est un exercice dans lequel l'insolence quand même règne beaucoup. L'usage du vocabulaire le plus gras est recommandé en quelque sorte, et on en sort avec une soirée, on va dire, très française.
Pour revenir, Maître Pirat, à Pierre-Antoine Berryer, il s'est appliqué à défendre toutes les causes, sans différence aucune. Il se revendiquait l'avocat des opprimés, des pauvres gens. On a parfois l'impression qu'on juge un avocat aux causes qu'il défend. Ça a permis de donner une bonne image de l'homme, Pierre-Antoine Berryer.
Alors paradoxalement, Pierre-Antoine Berryer, au 19e siècle, ne défend que des causes qui lui sont étrangères politiquement. Comme vous l'avez dit dans le récit, il est royaliste, il est légitimiste, et il va s'appliquer avec un soin tout délicat, ou presque maniaque, à défendre des républicains, des bonapartistes, tous ceux qui sont autres que royalistes. C'est-à-dire qu'il va à l'encontre de ses propres idées et se bat comme un beau diable, si je puis me permettre, ou comme un grand avocat, pour défendre des causes qui ne sont pas la sienne. Et c'est ce qui va le distinguer, c'est ce qui va en faire un avocat exceptionnel, parce qu'il va débuter, comme l'a dit Stéphane Bern, pendant la Restauration, il prête serment en 1811, il va traverser toute la Restauration, il va traverser la Seconde République, et puis il finira par plaider encore pendant le Second Empire, et donc à chaque fois sous des régimes qui ne sont pas nécessairement ceux pour lesquels il a le plus de faveur, et toujours pour des clients qui sont des opposants. Il ne faut pas se leurrer, par ailleurs, sur le côté gracieux et très généreux de l'avocat au XIXe siècle. Hein. L'honoraire est quelque chose de très tardif. Le fait de transformer l'honoraire en argent est une pratique relativement moderne. L'avocat est honoré originellement, c'est-à-dire que quand il a été bon et quand il a rendu service, le client vient de façon facultative l'honorer en lui remettant un poulet, de la viande, des légumes, voire quelques sous.
Mais alors, ils vivaient de quoi, les avocats?
Ils vivaient surtout surtout de la gloire. Il vivait de la fortune familiale et il choisissait de plaider non pas pour gagner de l'argent, mais pour faire montre d'éloquence, de leur savoir, de leur capacité, de leur culture générale. Donc Pierre-Antoine Berger, il est issu d'une bonne famille, d'un père avocat qui gagne bien sa vie, et il peut se permettre pendant un certain temps de donner l'impression d'être extrêmement généreux ou de continuer à l'être, parce qu'il a aussi quelques clients qui lui permettent également de financer son cabinet.
Ah voilà, tout s'explique. Bon, Emmanuel Pierre, aujourd'hui dans notre émission, on réunit de grands avocats qui ont marqué l'histoire. Après le flash de 17h, nous parlerons de l'incontournable Gisèle Halimi, qui est hélas décédée cet été et qui appartient désormais à l'histoire. Vous l'avez bien connue. Au moment de son décès, vous aviez écrit sur Twitter « Gisèle nous manque ». Mais nous allons tous essayer de continuer à porter aussi haut qu'elle les valeurs pour lesquelles elle a tant combattu. C'est au fond la grande humaniste qui nous manque.
C'est la grande avocate de la fin du XXe siècle, parce que c'est l'avocate du procès de Bobigny, de la cause de l'avortement, et qui réussit à plaider une cause qui aura un retentissement tel qu'elle en fera changer la loi. Je crois profondément qu'elle est à l'origine, en quelque sorte, de la loi Veil, et qu'elle a permis à Simone Veil en 1974, avec d'immenses mérites pour Simone Veil évidemment, grâce à la plaidoirie qu'elle a prononcée à Bobigny, de changer le visage de la société. Et c'est en cela que c'est une immense avocate qui évidemment a été avocate dans de nombreuses autres causes, et a été surtout une femme absolument extraordinaire par-dessus tout.
On parlera de Gisèle Halimi tout à l'heure avec le récit de Stéphane, évidemment, et Annick Cogent qui sera avec nous également.
Eh bien, merci beaucoup, Maître Pierrat. Vous venez de publier Procès de sang, les affaires criminelles qui ont marqué l'histoire de France aux éditions Géo-Histoire. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir été avec
nous. Merci à vous.
Merci à vous deux.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre. Tous les jours, on vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires. Clémentine Portier-Kaltenbach, aujourd'hui, vous nous racontez l'histoire de deux pionnières qui, elles aussi, portaient la robe.
Oui, tout à fait, Stéphane. Je vous le disais tout à l'heure, de nos jours, plus de la moitié des avocats sont des femmes. Mais entre 1884 et 1892, époque à laquelle Jeanne Chauvin, dont je vais vous parler maintenant, suit des études de droit à Paris, la loi exclut les femmes de la profession d'avocat parce que l'avocat est par excellence un office considéré comme viril. C'est les hommes, point, c'est tout. Et la situation de Jeanne est complètement absurde parce que à l'époque, pour pouvoir prêter serment, il suffisait d'une licence en droit.
Or, c'était pratique.
Bah, oui, c'était plus facile. Enfin, la licence en droit avait peut-être un plus haut niveau. Il devait y avoir des épreuves en latin. Ça ne devait pas être de la tarte non plus. Hein. Mais en tout cas, Jeanne Chauvin, elle a mieux qu'une licence puisqu'elle a obtenu un doctorat. Elle est même la première femme à obtenir le titre de docteur en droit en 1892. Alors d'ailleurs, sans surprise, le sujet de son doctorat porte sur les professions accessibles aux femmes et sur les inégalités juridiques entre hommes et femmes. Alors évidemment, ça plaît pas à tout le monde. Et d'ailleurs, le jour où elle se présente devant le jury, il y a des étudiants, que des hommes, bien sûr, qui envahissent la salle, qui chantent la Marseillaise et qui déclenchent un vacarme tel qu'il faut ajourner la soutenance. Parce qu'ils sont pas contents qu'une femme devienne docteur en droit. Alors, quelques jours plus tard, elle sera quand même reçue docteur en droit à l'unanimité des membres du jury. Alors, comme elle est toujours pas avocate, en 97, elle demande à prêter serment. Elle se fait retoquer. Elle va, du coup, n'avoir de cesse de faire changer les choses. Et elle va en appeler à Poincaré, qui est déjà un homme politique influent, qui a été plusieurs fois ministre de l'instruction publique. Il est aussi avocat. Et donc, elle est son amie. Elle plaide auprès de lui pour que la loi soit votée. Et ça va porter ses fruits parce que le 1er décembre 1900, enfin, vous vous rendez compte le chemin parcouru, hein, parce que les débuts de ses études, c'est plutôt les années 1880. Donc, loi du 1er décembre 1900 ouvre aux femmes la profession d'avocat. Et d'ailleurs, Jeanne Chauvin n'est pas la première à en profiter. C'est une certaine Olga Balachowski-Petit, née en 1870 et morte en 1965, qui alors a 30 ans, eh bien c'est elle qui prête serment 2 jours à peine après la proclamation de la loi. Elle était la fille d'un industriel ukrainien et elle s'était mariée en 96 à Jules Petit, un avocat, un journaliste, qui l'a encouragée à faire une thèse de droit. Souvent, les femmes qui font des études dans ces années-là, quand elles sont mariées en tout cas, hein, c'est grâce à leur mari, il faut le dire, parce parce que une femme n'a pas le droit de faire d'études sans le, une femme mariée, pardon, n'a pas le droit de faire d'études sans l'autorisation de son mari. Ça paraît incroyable aujourd'hui, mais c'est la vérité. D'ailleurs, la thèse d'Olga Balachowski, petit, la loi et l'ordonnance dans les États ne reconnaissant pas la séparation des pouvoirs. Vous voyez. D'ailleurs, c'était une des grandes revendications et interrogations de ces femmes qui faisaient des études, expliquaient, mais écoutez, n'importe quel monsieur analphabète a le droit de voter, et nous, on est toujours exclus du scrutin, ça va pas du tout. Mais ce qui caractérise les considérations de la presse dès qu'une femme essaie d'investir un bastion de ce genre, c'est la condescendance comme toujours. Si vous regardez le Figaro du 6 décembre 1900, c'est un avocat qui fait un article qui consacre à cette loi. Ah oui, alors écoutez, plutôt mignonne, gracieuse, la chevelure un peu ébouriffée, la jeune femme lève la main droite au doigt de laquelle on aperçoit plusieurs bagues. La robe de Madame Petit, qu'elle aurait confectionnée elle-même, est infiniment plus élégante que les robes de messieurs ses confrères. Pourquoi la coquetterie féminine désarmerait-elle sous la toque ? Vous voyez, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, ça a été pareil hein, quand les femmes ont commencé à conduire, à faire de la course automobile, on commentait leur costume en tweed au lieu de dire c'est génial que des femmes fassent ça. Alors, notre Jeanne Chauvin, elle est donc la seconde à prêter serment 13 jours après Olga Petit. Et en revanche, elle est la toute première femme à plaider en France dans une affaire de contrefaçon de corset. Alors imaginez facilement les sarcasmes des confrères, la première femme à plaider, c'est une histoire de corset. Mais enfin, plus sérieusement, Jeanne Chauvin va être à l'origine d'une loi tout à fait essentielle pour les femmes, la loi de 1907 qui leur permet de disposer librement de leur salaire. Voilà, de quoi démentir le vieil adage machiste, hein, parce que cet adage était vraiment extrêmement respecté et dans tous les esprits des avocats autrefois, robe sur robe ne vaut. Donc il peut pas y avoir une femme en robe, et ben jamais, au contraire, robe et épitoge ne furent mieux portées ni plus méritées que par Jeanne Chauvin et Olga Petit. Voilà quelles furent les pionnières qui ouvrirent la voie 50 ans avant une Gisèle Halimi, qui elle sera à 27 ans, vous l'avez dit, la première femme à plaider un recours en grâce. Alors, au fait, quand même, dans ce musée du Barreau, il y avait une autre dame que Jeanne Chauvin, c'est au musée de loi, au jeu de loi de l'affaire Dreyfus, dont les pions sont des boutons de guêtre. Hein. Le gagnant est le premier qui atteindra la vérité. Et la vérité, comment est-elle représentée ? Eh bien, sous les traits d'une ravissante femme nue. Eh oui, ça c'était bien dans l'esprit de l'époque. Mais enfin, nul doute que des souvenirs et des dossiers de Gisèle Halimi viendront bientôt rejoindre ces très grands ténors du barreau de l'histoire de France.
C'est quoi la date, le moment à partir duquel les femmes ont pu disposer de leur salaire librement ?
Eh bien, c'est une loi de 1900, ça a dû être une des premières.
Donc c'est une loi du 20e siècle, c'est passé.
Ah, c'est le 20e siècle. Non, c'est 1907, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est 1907. Avant, vous n'avez pas
demandé la permission à son père ou à son mari.
C'est fou, hein. Incroyable.
Toute une époque, Stéphane.
Bah, merci. Non, j'aurais adoré vivre à cette époque.
Oh non. Oui, mais on y vivait déjà. Merci, Clémentine Portier-Keltenbach.
Hier, c'était un peu spécial. On fêtait son anniversaire. Mais aujourd'hui, Clémentine n'a plus ordre de le laisser gagner.
Vous êtes incroyable.
Retour à
moi, j'ai des primes quand je vous laisse un point.
Ah bon,
oui,
ça, vous ne le savez pas, Stéphane.
Mais c'est je ne voulais pas vous dire, mais bon.
Moi, la régie me dit, mais surtout, laissez gagner un peu Clémentine.
Un double discours terrible. En tout cas, le quiz arrive. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Plus ça va, plus il perd patience. Oui, Stéphane Bern n'en peut plus d'essuyer défaite sur défaite dans le
c'est
quiz.
C'est pas vrai.
C'est
vous
pas tout à fait vrai statistiquement, non. Mais dans l'esprit, c'est un peu ça. Désormais, il accuse ceux qui le préparent d'être des traîtres.
C'est la chienlit.
N'exagérons pas, Stéphane, c'est juste un jeu. Jouons calmement.
Vous avez raison. Amusons-nous.
Stéphane, première question, elle est pour vous. On se souvient de l'amiral Nelson, qui s'était illustré pendant les guerres de la Révolution française et napoléonienne. C'était un vice-amiral britannique. En France, amiral est le plus haut grade pour un officier de marine. Et d'ailleurs, le mot amiral vient de l'arabe. Vrai ou faux ?
C'est vrai, c'est vrai. Je vous dis que
moi,
c'est vrai.
Moi, je n'ai rien entendu. Chut. On ne sait pas. C'est vrai ou c'est faux ?
Ah, ça vient de Amir, je crois. Ça vient de Amir.
Le chanteur, l'Eurovision ?
Non. Amir, ça veut dire
ce
le.
Vous l'avez dit, Stéphane.
Émir. Non, mais écoutez, par exemple, celui qu'on appelle l'émir du Qatar, on dit Amir aussi.
Oui.
Et ça a donné amiral.
Bravo. Bravo. Ça, c'est
ça
une belle déduction.
Ça veut dire commandant.
Alors, vérifions ensemble.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné au sens où vous avez donné la bonne réponse, vous avez dit vrai. Néanmoins, vous venez de perdre votre point, puisque effectivement, ça n'avait aucun rapport avec, avec Amir de l'Eurovision, Stéphane. Aucun, ça vient de
Amir. Mais j'ai pas parlé d'Amir de l'Eurovision.
Un émir, Amir, Amir Attar, signifie littéralement le prince de la mer. On passe à la deuxième question. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ah non!
Qu'est-ce qui est le plus long?
Arrêtez alors là.
Qu'est-ce qui est le plus long?
Je viens tout accepter, mais pas la famille, franchement.
À la plaisanterie, vous avez un point, mon cher Stéphane,
merci,
évidemment.
Bravo,
Clémentine, qu'est-ce qui est le plus long? La célèbre tapisserie de Bayeux, qui date du XIe siècle et qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, ou le plus grand cake aux fruits du monde?
Oula.
Bah, je pense que vous nous faites le coup du hot dog dans la galerie des glaces.
Je ne vois pas de quoi vous parlez.
Alors, je pense que le plus long cake va être plus long que la tapisserie de Bayeux, à mon avis.
Un cake serait plus long que la tapisserie de Bayeux.
Écoutez, si un hot dog est plus long que la galerie des glaces, un cake
est
peut
possible,
être plus
finalement
long que la tapisserie de Bayeux. Je réponds oui.
Vous avez gagné.
Comme dirait Pascal Praud, mais dans quel monde vivons-nous? Oui, le plus grand, et il le dit un soir sur deux, c'est vrai, le plus grand cake aux fruits du monde mesure 3,2 kilomètres. Il est plus grand que la tapisserie de Bayeux.
3,2 kilomètres,
la tapisserie de Bayeux. Misérable
tapisserie. Mais dans quel four vous l'avez fait entrer?
Alors moi, je n'y suis pour rien, Stéphane. Je vous avais déjà détesté les cakes aux fruits, je tiens à le dire.
Tout ça, c'est possible, bien sûr.
Tout est possible. La tapisserie de Bayeux, d'après vous, elle fait combien?
Attendez, je me demande si elle fait c'est pas dans les 60 mètres, un truc comme ça, ou 72 ou 62, quelque chose comme ça.
69,50 mètres, voilà, tout de suite. Non, c'était une bonne réponse, vous avez déjà bien répondu.
Oui.
Non, on va pas vous mettre des points supplémentaires. Non, c'est bon, alors un point, ça suffit. Question numéro 3 pour vous. C'est vraiment bien organisé ce... Vous imaginez si je présentais un vrai jeu avec des vrais enjeux?
Donc, vous seriez renvoyé de la télévision.
Je pense que j'aurais pas fait une émission. Stéphane, question numéro 3. Dans les années 60, il y a eu un vrai agent secret britannique du nom de Bond, James Bond. Et il a été déployé en Pologne pour espionner le régime communiste. Vrai ou faux?
Non, à mon avis...
Mais arrêtez de lui donner des pistes. Laissez-le seul face à sa culture.
Oh, bon.
En tête à tête. Stéphane, d'après
vous... En tête à tête avec sa culture.
Que vous disent vos souvenirs, Stéphane? Dès les années 60, vous les avez bien connus. Est-ce que James Bond a existé, hein, tout simplement?
Je crois. Écoutez... Je pense que c'est vrai. Voilà,
c'est
je veux dire que c'est vrai.
Dusan Popov, me semble-t-il, ou Dusan quelque chose.
Dusan Popov, ça n'a rien à voir avec James Bond.
Non, si, c'est celui qui a inspiré James Bond. Excusez-moi, Ian Fleming.
Vous confondez tout. Je ne vous dis pas qui a inspiré James Bond. En plus, James Bond, c'est le nom d'un ornithologue que Fleming avait lu. On en a parlé ici dans un bouquin d'ornithologie. Non, là, je vous demande si
il y en a eu un type qui
s'appelait James Bond. C'était l'époque de la guerre froide. Et je pense tout à fait qu'on a pu l'envoyer en Pologne
pour rigoler,
espionner. Non, pour espionner. Pour espionner la... Oui.
Pour espionner qui? Vous avez oublié.
Le régime communiste polonais, bien sûr.
Bien joué, vous en tirez bien.
Jaruzelski.
Vous avez gagné.
Ouais, vous avez gagné,
génial.
Stéphane. Vous êtes prêt pour la roue de la fortune, Stéphane.
J'adore.
Un candidat très communicatif. Ouais. James Albert Bond avait un physique plutôt ingrat. Il a été envoyé en Pologne 2 ans après la sortie au cinéma du premier James Bond. Il a été rappelé au bout d'1 an parce que ses surveillances n'ont donné aucun résultat. Donc c'était un James Bond nul, moche. Mais alors, est-ce qu'il faisait...
Est-ce que vous avez sa photo?
Je ne peux pas vous montrer sa photo pour la simple et bonne raison que nous sommes en radio, Stéphane. Mais dès que nous ferons de la télé ensemble, je vous montrerai sa photo.
Non, mais vous savez, il y a les réseaux sociaux maintenant.
C'est vrai. Hein,
nous la chercherons.
Et nous essaierons de la mettre sur le site. D'accord, effectivement, d'accord. Je ne sais pas si des photos existent de ce James Bond-là. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Ming, c'est le nom de cette prestigieuse dynastie qui a régné sur la Chine de 1368 à, Stéphane, comme vous le savez, 1644. Merci Stéphane. Mais c'est aussi le nom...
Je n'osais le dire, je voulais pas influencer.
Oui, vous n'osiez. Mais c'est aussi le nom du plus vieil animal au monde, une palourde qu'on a appelée Ming car elle est née à cette époque. Vrai ou faux?
Une palourde qui s'appelle Ming.
Stéphane,
bon, ça peut pas être le plus vieil animal au monde, une palourde née au siècle Ming, c'est-à-dire 1300 ans. 1300 ans avant notre ère, vous nous avez dit, jusqu'à 1648. Qu'est-ce que c'est que cette question? Elle est formulée de façon absurde.
Ming, c'est le nom de cette prestigieuse dynastie qui a régné sur la Chine, Stéphane, de 1368 à...
À 1644.
Bien. Mais c'est aussi... Mais c'est aussi le nom d'un des plus vieux animaux au monde. Une palourde qu'on a appelée Ming car elle est née à cette époque. Vrai ou faux?
Si cette question était fausse, je ne vois absolument pas
son
pourquoi,
intérêt.
Oui, son intérêt. Oui, oui. Donc je vais répondre que oui, il y a une palourde qui s'appelle Ming.
Vous avez gagné.
Elle a gagné. On ne sait pas comment. Moi-même, je n'ai pas compris la question. Je comprends encore moins la réponse. Je vous la livre néanmoins. C'est vrai. Ming, la palourde, avait 507 ans. Oui, avait. Car les scientifiques britanniques en charge de sa datation ont eu la malencontreuse idée de forcer l'ouverture de sa coquille.
Elle est
morte.
Ça
a été fatal à Ming. Rest in peace, Ming. Petite palourde. Partie trop tôt. Qui
vous
remporte
dire qu'elle
ce
avait, elle avait
quiz.
Plus de 500 ans et elle est morte. Bêtement, parce qu'on l'a
alors
ouvert.
Là, il faudrait,
cotement,
oui.
À cause de scientifiques. Vous n'êtes pas départagé, il faut vous départager.
Oh,
voici
pourtant,
la question numéro 5.
Le cake et la palourde, j'avais fait fort.
La question de rapidité. Je vous présente le général mexicain Antonio López de Santa Ana y Pérez de Lebrón.
Oui.
Il a été président du Mexique en 1833, on le surnommait le Napoléon de l'Ouest.
Santa Ana, oui.
Mais il avait également un autre surnom, lequel? Trois propositions, attention, c'est la rapidité. 15 ongles, 3 jambes ou monotesticules?
3 jambes, je dirais.
Il y avait
trois jambes parce que ça devait être un grand séducteur.
15 ongles, je dirais.
Comme
moi.
La terre, ça gamba de chevalier Déon.
Pourquoi vous dites 15 ongles, vous? Vous dites 15 ongles.
Parce que je ne veux pas dire 3 jambes. 3 jambes, c'est indécent, vous voyez.
Et pourquoi pas monotesticule? Monotesticule.
Non, parce que ça, personne n'a.
Monotesticule.
Parce que, alors là,
je sais pas,
celui
il faut
qui aurait dit ça n'est pas fait long feu. Non, moi je dis 3 jambes. C'est la terre.
Moi je dis 15 ongles.
15 ongles, réponse.
Vous avez gagné.
C'est Stéphane qui a gagné.
15 ongles.
Quince Unas, je ne sais pas comment on dit, appelé Castelo López. 15 ongles. En 1838, il perd une jambe à la bataille de Veracruz. Face à la France, il décide d'offrir des funérailles nationales à ce membre manquant. On le surnomme 15 ongles, figurez-vous. Vous avez compris pourquoi?
Bah parce qu'il lui manque un 5 ongles de doigt de pied, c'est
exactement,
ça?
Exactement.
Oui, au lieu d'en avoir 20.
Ah, c'est pas mal.
Ouais, et dis donc, Stéphane, c'est une victoire.
Non.
Ça vous fait quoi de le remporter comme ça?
Oh, bah écoutez, j'ai l'habitude maintenant.
Bon.
(rire) 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Une émission où le ton badin et décontracté mène parfois à des drames. Comme la semaine dernière durant notre spécial de Gaulle, alors qu'on évoquait la culture littéraire du général, omettant de réfléchir avant de parler, Stéphane Bern a brisé en une phrase 10 ans d'amitié macronienne. Au beau milieu de cette phrase terrible, il a bien tenté de rétro-pédaler, mais c'était trop tard.
Il disait beaucoup, il était très cultivé. Ça change des chefs d'État d'aujourd'hui, enfin, disons. Je parle pas en France, mais...
5 jours que Brigitte et Emmanuel ne répondent plus à ces textos. Stéphane, vous n'avez plus que moi.
Non mais vous divaguez. D'abord, j'envoie pas de textos. Et ensuite, je parlais évidemment de Bolsonaro, de Trump, de tous ces gens.
Ah, maintenant, vous avez trouvé maintenant les noms.
De tous ces gens qui n'ont pas lu un livre. Enfin, qui continuent de colorier le premier. Vous dites, je vais vous demander, s'il vous plaît, à partir de maintenant,
oui, Stéphane,
de me témoigner un peu plus de respect. Tiens, vous savez quoi? Maintenant, vous allez m'appeler maître.
Rappelez-nous le thème du jour, maître.
Eh bien, justement, les grands avocats de l'histoire. Après Pierre-Antoine Berryer, que tout le monde avait oublié, je vous parle d'une avocate que beaucoup ont redécouverte au moment de sa disparition en juillet dernier, Gisèle Halimi. De votre côté, Mathieu, rien n'a changé hein, pour votre personnage. Je crois vous pouvez pas vous empêcher de faire l'andouille.
Absolument pas. Je vous parle moi aussi d'un célèbre maître, Maître Yoda. Le temps de trouver sur quel bouton appuyer pour passer en hyperespace et je suis à vous.
Et puis nous avons d'autres maîtres, mais des maîtres que notamment avec Olivier Pouls, des maîtres trouve-tout avec David Castelo López.
Ça c'était dur, hein, passer de maître que à une autre forme de maître. Bien joué Stéphane.
Oui, c'est bien trouve-tout aussi. Oui.
Qui nous raconte les origines du velcro, c'est ça
Exactement.
Oui, c'est-à-dire qu'on se posait vraiment la question et vous êtes là.
Oui, d'où ça vient, c'est vrai.
Et pour une fois, il y a une histoire claire, définie. Non, c'est pas portugais.
Ah non.
Une histoire claire, définie, précise, il n'y a pas de doute, c'est très agréable.
Ou velcro.
Olivier Pouls, je tiens à signaler que cette imitation de qualité vient de Stéphane Bern et non pas d'Olivier Pouls.
Je faisais l'accent portugais, ou le velcro.
Oui, mais oui, on a bien compris que vous faisiez l'accent portugais. Je lui dis que c'était vous qui le faisiez pour bien vous afficher, Stéphane, pour enfoncer le clou. Olivier Pouls, aujourd'hui, on fait un soufflet ce soir.
Moi aussi, histoire claire, nette, précise, avec recette claire, nette, précise.
On sait d'où ça vient,
on sait comment on le fait, on sait comment on ne le rate pas, et puis je vous donnerai la recette.
Qui a fait le premier soufflet?
Vous le saurez tout à l'heure.
Ne soyez pas impatient, Stéphane. D'accord. Vous aurez le mot de la fin. Chaque jour, vous décortiquez une expression pour nous aujourd'hui.
Pour vous rendre hommage, ce seront les expressions sur la beauté.
Je décèle un brin d'ironie dans votre phrase et je le relève. Tout de suite, notre deuxième récit du jour. Les amis, Stéphane Bern nous raconte un monument de la magistrature française, Gisèle Halimi.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Gisèle Halimi a fait de son combat pour la cause des femmes le combat d'une vie, qui s'est hélas achevé il y a quelques mois, le 28 juillet dernier. Gisèle Halimi faisait partie de ces grandes dames qui ont fait avancer notre société. Grande dame, mais madame ou mademoiselle? C'est la question désarmante à laquelle elle dut répondre un jour de 1959 face au général de Gaulle, auprès de qui elle sollicitait une grâce présidentielle alors qu'elle défendait des combattants du FLN algérien. Gisèle Halimi venait de divorcer. Le général lui a donc lancé « Bonjour madame ou mademoiselle ?» L'avocate lui a rétorqué, sans se laisser décontenancer, « Appelez-moi maître, monsieur le président. »
Et pam !
Maître, Gisèle Halimi l'a été de sa vie aussi. À l'âge de 12 ans déjà, elle faisait une grève de la faim pour dénoncer le patriarcat. C'est dans une famille pauvre de juifs séfarades que Zeïza Gisèle Alice Taïeb voit le jour le 27 juillet 1927 à La Goulette, en Tunisie. Dans la plus totale discrétion, car pendant 2 semaines, son père fait croire que sa femme n'a pas encore accouché. Avoir une fille est alors vu comme une malédiction, un véritable fardeau. Gisèle comprend vite que la femme est le sexe faible et n'a qu'un objectif, trouver un mari. Avec sa mère et sa sœur, elle s'occupe des tâches ménagères et sert les hommes de la maison. Gisèle s'insurge et en guise de protestation entame donc une grève de la faim. Elle ne mange rien pendant 8 jours. Ses parents inquiets finissent par céder. Elle écrit alors dans son carnet « J'ai gagné mon premier morceau de liberté ». Gisèle n'a pas reçu d'éducation et apprend en autodidacte au gré de nombreuses lectures. Quand elle a 16 ans, sa mère veut la caser avec un riche marchand d'huile, ami du père, de 20 ans son aîné. Mais il y a 2 voitures, s'offusque-t-elle face au refus de sa fille. Gisèle n'a pas besoin d'un homme pour tracer sa route. Poussée par son institutrice, elle passe avec brio un concours grâce auquel elle n'a plus à se soucier de ses frais de scolarité. Elle va au lycée et décroche son bac à 17 ans. Elle a alors un rêve en tête, partir vers la France. Gisèle s'envole pour Paris où elle étudie le droit. À 19 ans, elle tombe enceinte et choisit de mettre un terme à cette grossesse non désirée. Un jeune médecin lui fait un curetage à vif. « Comme ça, tu ne recommenceras plus », lui dit-il. Un événement déterminant dans la suite de son parcours, mais qui ne l'empêchera pas d'avorter encore à 2 reprises. En 1949, à l'âge de 21 ans, elle découvre le deuxième sexe de Simone de Beauvoir et prête son serment d'avocate. L'année suivante, elle épouse Paul Halimi, avec qui elle aura 2 enfants. Engagée auprès des colonisés d'Algérie, Gisèle Halimi fusionne son militantisme politique et son engagement féministe lors du procès de Jamila Boupacha en 1960. Cette militante du FLN a été arrêtée alors qu'elle allait participer à un attentat à Alger. Pour obtenir ses aveux, les militaires français l'ont violée et torturée. Halimi fait appel à une autre défenseuse des droits de la femme, l'intellectuelle Simone de Beauvoir, pour médiatiser l'affaire et mobiliser l'opinion publique sur la torture en Algérie. Halimi et Beauvoir fondent le comité pour Jamila Boupacha et signent ensemble un livre éponyme. La victime est graciée en 1962 suite aux accords d'Évian. Quelques années plus tard, en avril 1971, Gisèle Halimi prend position publiquement sur l'avortement pour la première fois. Dans le Nouvel Observateur, elle signe le manifeste des 343 initié par la même Simone de Beauvoir. Autant de femmes, célèbres ou anonymes, qui assument leur recours à l'avortement. Cette même année, Gisèle Halimi fonde une association, Choisir la cause des femmes, dont les 3 axes de bataille sont la contraception et l'éducation sexuelle, la défense gratuite des inculpés et la suppression de la loi de 1920 qui interdit toute propagande anticonceptionnelle et définit l'avortement comme un crime. Gisèle Halimi rencontre une adolescente de 16 ans, violée par un ami alors qu'elle était en vacances l'été précédent et tombée enceinte de son violeur. La jeune fille se fait avorter. Victime d'une hémorragie, elle manque d'y passer. Un jour, elle recroise son agresseur dans la rue et lui balance tout. La réaction du jeune homme, aller tout de suite la dénoncer à la police. Gisèle Halimi obtient la relaxe de la jeune femme. Elle défendra ensuite sa mère, deux femmes coupables d'avoir été au courant ainsi que l'avorteuse. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne, s'exclame l'avocate. Le procès qu'elle a exigé public est retentissant. Parmi les témoignages marquants, celui du professeur Millier, fervent catholique opposé à l'avortement, conscient qu'il faut parfois faire exception à la règle. Les victoires médiatiques s'enchaînent alors. Gisèle Halimi sait que la politique se fait au tribunal et qu'avec la médiatisation, elle pourra faire évoluer l'appareil législatif. Et c'est chose faite. Consultée par la ministre de la Santé, Simone Veil, l'avocate joue un grand rôle dans la légalisation de l'avortement en 1975. Elle refuse encore le huis clos dans le procès d'Aix-en-Provence en 1978. 4 ans plus tôt, 2 touristes belges ont été violées par 3 hommes alors qu'elles campaient dans une calanque près de Marseille. Alors qu'elles sont jugées consentantes, voire provocantes, l'avocate remet les choses en ordre. Les bourreaux prennent entre 4 et 6 ans de prison. Gisèle Halimi sillonne la France pour défendre des victimes de viol. Interpellée par son travail, la sénatrice Brigitte Gros dépose une proposition de loi sur le viol. En 1980, le viol n'est plus un simple délit. Il est désormais un crime dont la punition s'élève à minimum 15 ans de prison. Élue députée de l'Isère en 1981, Gisèle Halimi voit sa proposition d'amendement instaurant un quota pour les femmes aux élections rejetée par le Conseil constitutionnel. François Mitterrand la nomme ambassadrice de France à l'UNESCO, poste qu'elle n'occupe qu'une seule année en 1986. Elle est déçue par le président de gauche, pas assez attentif pour elle à la cause des femmes, qu'elle s'est acharnée à défendre jusqu'à la fin de sa vie. Le 28 juillet dernier, à l'âge de 93 ans, Gisèle Halimi est décédée. Presque un siècle de combat qui se poursuit sans elle, désormais.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Gisèle Halimi, nous sommes avec la grande reporter au monde, Annick Cogent. Bonjour Annick.
Bonjour.
Annick Cogent, vous venez de publier Une farouche liberté aux éditions Grasset. C'est un livre d'entretien autobiographique avec Gisèle Halimi que vous veniez d'achever au moment de sa disparition. Si elle vous a choisi, vous, c'est parce que vous la connaissiez bien. Comment vous vous étiez rencontrés, elle et vous?
On se connaissait depuis longtemps, même si on ne s'est pas énormément fréquenté, mais tout de même, c'était régulier. Je pense que la première fois, c'est un coup de fil à la rédaction du Monde. J'étais jeune journaliste, j'étais dans le pool des grands reporters, donc spécialiste de rien. Et elle avait noté, je crois, une propension dans mes articles à m'intéresser aux femmes, quel que soit le dossier, le sujet, le pays dans lequel on m'envoyait. Et elle m'a invité au restaurant et on a continué à faire ça de temps en temps. Elle aimait beaucoup rencontrer les jeunes, les femmes, je crois beaucoup. Les jeunes, surtout, discuter, sonder, prendre le pouls sans arrêt de ce qui se passait dans la société. Elle se cherchait aussi peut-être des alliés dans son combat. Et je pense qu'elle pouvait, pour beaucoup de femmes, sans doute, et de jeunes femmes, jouer une sorte de rôle de mentor.
Est-ce que, Annick Cogent, est-ce que vous évoquiez l'actualité brûlante, si j'ose dire, avec elle,
oui,
dans les derniers temps? Vous parliez, je sais pas, du mouvement MeToo, de tout ça?
Oui, alors pour MeToo, c'était compliqué parce que elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Elle avait 92 ans quand je la voyais, et enfin les derniers temps en tout cas. Et donc, elle avait du mal à comprendre ce que c'était MeToo. Elle me disait, écoutez, je crois que c'est exagéré l'importance qu'on donne à ce mouvement. Alors je disais, attendez, je prends mon petit téléphone, on s'assoyait sur le canapé, je lui disais, je vais vous montrer ce que c'est Twitter, ce que c'est hashtag MeToo. Elle me disait, mais vous savez, on dit qu'elles sont nombreuses, mais nous étions quelquefois 2000, 4000 à choisir. Et je dis, mais vous savez, quand elles mettent hashtag MeToo, Gisèle, elles sont 2 millions, peut-être 20 millions parfois. Ah bon, disait-elle, oui, bien sûr, c'est une force. Parce que, effectivement, elle était obsédée par la solidarité des femmes. Quand est-ce qu'elles comprendront, ces femmes, que quand elles se mettent toutes ensemble, elles ont une force monumentale? Ben là, je vous disais, vous voyez, par le petit hashtag et par Twitter, elles se rendent compte qu'elles sont nombreuses à avoir vécu les mêmes choses et elles peuvent transformer les choses. Oui, disait-elle, mais il faut faire attention, parce qu'une fois qu'on a dit, moi aussi, ça m'est arrivé, on fait quoi, hein? On fait quoi? Et elle était toujours impatiente de concrétiser quelle lutte? On fait quoi? On saisit la justice? On va voir les tribunaux? On se présente en politique? On fait quoi une fois qu'on a dit « moi aussi ça m'est arrivé
». Vous le dites, Annick Ojean, elle a boosté la cause des femmes, elle a porté très haut les valeurs du féminisme, et sa quête d'absolue liberté est comme une injonction. Mais où est-ce qu'elle trouvait la force de se battre? J'ai raconté, d'ailleurs, j'étais assez ému de raconter les combats de sa vie, parce que en réalité, elle a beaucoup souffert aussi. Comment elle trouvait la force au fond d'elle? C'est de son enfance.
Oui, vous l'avez très bien dit, Stéphane, tout à l'heure. Dans son enfance, dans son histoire, dans cette perplexité ressentie très tôt devant les inégalités entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes, dans sa propre famille. Au départ, c'était de la perplexité, mais comment ça se fait? Et sa mère lui disait, parce que t'es une fille. Enfin, ça suffisait pas. De la perplexité, elle est passée à la colère, à la rage. Elle disait souvent rage, d'ailleurs, parce que c'était tellement fort. Et le « c'est pas juste » qu'elle lançait à son père quand elle avait 10 ans, je vous assure qu'elle me le disait encore il y a quelques mois, installée dans son fauteuil. « C'est toujours pas juste, Annick. C'est toujours pas juste !» Et ça, cette injustice lui était insupportable. Il se trouve que dans sa vie personnelle, elle était soutenue par un homme qu'elle aimait profondément, qui était son allié. Un féministe, elle avait l'impression qu'elle avait trouvé le seul féministe français et elle l'avait épousé. Et c'était, je vous assure, un socle qui lui donnait aussi équilibre et soutien et peut-être base aussi pour continuer ses combats.
Annick, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la notion de l'action pour Gisèle Halimi. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait le constat? Est-ce qu'on attaque en justice ou est-ce qu'on se lance en politique? On a l'impression qu'elle a eu des liens compliqués avec les politiques. On se souvient de Stéphane l'a raconté quand elle rencontre De Gaulle et qu'elle le remet gentiment en place. Elle avait des rapports compliqués avec le milieu politique. Même quand Mitterrand fait appel à elle, c'était pas facile pour elle la politique. Elle n'y croyait pas vraiment.
Elle y a cru quand même à un moment donné, parce que effectivement, quand elle allait au tribunal, elle dénonçait régulièrement les lois, elle faisait le procès des lois. Alors évidemment, ça lui était toujours reproché, les présidents de cour d'assises, ils disaient, mais enfin, la loi est celle-là, je peux pas la changer. Alors je te disais, il faut la changer. Alors elle essayait de bouleverser les opinions, effectivement, bouleverser, créer des débats dans la société française. Elle s'adressait au-dessus, elle parlait au-dessus de la tête des présidents de cour d'assises pour parler à toute la société. Et donc, aux politiques. Et à un moment donné, elle s'est dit, ben pourquoi pas? Quand Mitterrand l'a appelée en 81, eh ben oui, elle s'est lancée, elle a fait campagne, elle a été élue. Et dès le premier jour qu'elle est entrée dans l'hémicycle, et quand elle a compris que à 88%, la salle était remplie d'hommes en costume cravate et qu'il y avait quelques petites taches de couleur, quelques femmes, que la partie n'allait pas être facile. Donc très vite, elle s'est battue pour une loi sur la parité, mais très vite aussi, elle a compris que comme elle n'était pas membre d'un parti politique, eh bien on lui donnerait pas la parole, on lui donnerait pas des rapports à faire, on lui donnerait pas la possibilité de s'exprimer sur les lois. Elle s'est battue comme elle a pu. Mais Pierre Joxe et d'autres au Parti Socialiste vraiment l'ont considérée comme tellement peu importante et en plus comme dangereuse. Et bien très vite, on l'a mise de côté et donc elle a démissionné au bout d'un moment. Ça a été un chagrin, je pense, une vraie déception. Et puis, y compris de Mitterrand, en qui elle avait cru. Et en fait, quand elle en parlait après, elle parlait d'un machiste épouvantable et que ça n'était pas un compagnon de route pour le féminisme, certainement pas.
En tout cas, on sent votre passion, Annick Ojean, quand vous parlez de Gisèle Halimi. Pour tout connaître de la vie de combat de Gisèle Halimi, ben, je vous invite à lire Une farouche liberté que vous venez de publier aux éditions Grasset. Merci beaucoup, Annick, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, le thème défini en conférence de rédaction avait, je crois, été bien compris par tous. Appelez-moi maître, ou l'histoire des grands avocats. Un individu n'a visiblement pas compris ce thème, puisque Mathieu, dans votre portrait à 99% vrai, vous nous parlez aujourd'hui de maître Yoda, c'est bien ça?
Oui Stéphane, pour paraphraser maître Yoda, je sais ce que vous vous dites, de ma gueule se foutre, il a voulu. Loin de moi cette idée, cher Stéphane, car aujourd'hui nous parlons des avocats et moi je vous parle de l'avocat d'une des causes les plus importantes de l'histoire de l'univers, celle de la rébellion contre l'Empire. Sauf évidemment si vous avancez masqué et que sous vos airs progressistes, Stéphane, vous êtes en fait un sournois défenseur du côté obscur, un suppôt de l'empereur Palpatine. Bien, c'est ce que je redoutais, mes petits padawans. Stéphane est bien gentil, mais il nous en va faire un disciple de l'ATC-RAGE, l'association des types qui ne connaissent rien à la guerre des étoiles. Ah, ça, pour énumérer de mémoire la branche cadette des Valois sur 18 générations, il y a du monde. Mais quand il s'agit de parler culture populaire, il n'y a plus personne. C'est toujours le même problème avec les incultes. Comment raconter un personnage de Star Wars à quelqu'un qui pense que Tatooine est un salon de tatouage? Voyez quand même qui est Dark Vador, Stéphane.
Absolument,
ce
oui.
Ce type qui a la voix de Jeanne Moreau et qui bosse pour l'Empereur mais qui souffre en permanence.
C'est un peu comme Napoléon et ses hémorroïdes à cheval.
Rien à voir, rien à voir. Enfin, votre réaction hébétée, Stéphane, démontre une fois de plus que le monde est scindé en deux. Les gens qui aiment Star Wars, ceux avec une passion toujours démesurée, et ceux qui n'ont jamais vu Star Wars de leur vie, qui sont parfaitement hermétiques et qui résument la saga avec cette arrogance propre aux Béotiens. Ouais, Star Wars, c'est ni plus ni moins qu'un mec poilu, un autre qui parle à l'envers, une nana méga bonne en bikini doré, un gars en robe de chambre avec un sabre et un autiste asthmatique qui respire sous un casque. Essayons ensemble d'y voir plus clair. Maître Yoda est un avocat, je n'en démords pas, l'avocat du côté clair de la Force. La Force, Stéphane, c'est cette énergie qui traverse l'univers et qu'Obi-Wan Kenobi décrivait en ces termes un peu équivoques.
C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre.
Alors, un fluide qui nous pénètre, qui n'est pas celui auquel vous pensez, Stéphane. Hein, une énergie que les plus éveillés d'entre nous, les plus aware, si vous voulez, arrivent à capter pour s'en servir et faire le bien, côté clair, ou le mal, côté obscur de la Force. Yoda est donc un gentil, Stéphane. Si vous voulez qu'on schématise, Maître Yoda, oui. C'est comme les Anglais durant la Seconde Guerre mondiale, et Dark Vador, c'est les nazis, avec un masque à gaz. Mais pas ce gaz-là. Bref, ne nous en mêlons pas, quoique dans Mein Kampf, Hitler aurait parlé de ramener l'équilibre dans la Force.
Non, c'est vrai?
Non, c'est pas vrai. Suivez, Stéphane. Bon, schématisons encore plus. Alors, Maître Yoda, c'est le chef des gentils. Et c'est souvent le personnage préféré des geeks. Là, je me tourne vers Castelo Lopez, qui, comme tous les timides complexés nuls en basket car trop petit pour dunker, a dû pas mal s'identifier au personnage nain de Yoda. Personnage qui, en effet, Stéphane, est physiquement, en tout cas, l'antithèse du héros glamour. À travers lui, George Lucas a inventé l'inverse du jeune premier, si on veut, le vieux dernier. Un personnage qui redonne espoir à tous ceux que Dame Nature n'a pas gâtés, car disons-le tout net, non seulement Maître Yoda est infoutu de faire une phrase sujet-verbe COD dans l'ordre, mais c'est pas non plus le genre de type sur lequel les filles jettent leur dévolu en premier en soirée. Vert, ridé, petit, système ORL complètement HS, une qualité de peau désastreuse, pour ne pas dire dégueulasse, perpétuellement vêtu d'une couverture boulochée à la couleur non identifiable tirant quand même sur le cacadois. Maître Yoda est entre votre papy Marcel et Shrek post-opération bypass de l'estomac. Et pourtant, c'est un des personnages préférés des fans de la Guerre des Étoiles. Saviez-vous qu'il existe des boîtes à bonbons Yoda, des boules à neige Yoda, des mugs, des pendules, des peluches, des magnets, des figurines, même des préservatifs Maître Yoda, même si personnellement, question taille, j'utilise plutôt les préservatifs Chewbacca, mais je ne suis pas là pour me vanter. Ce qui est frappant et ce qu'il faut retenir, notez Castello, c'est que malgré un physique ingrat, on peut fasciner et devenir une idole. Absolument gratuit, sachant que Castello est un garçon charmant. Évidemment, le fait qu'il soit un maître Jedi compense sa petite taille, son côté mystérieux aussi. George Lucas, papa de la saga, a fait des recherches très poussées au moment de la création du personnage. Passionné de sanskrit, langue indo-européenne de la famille indo-aryenne, autrefois parlée dans le sous-continent indien, comme vous le savez Stéphane, et à tort,
oui,
rarement choisi en LV2, il décide d'y puiser le nom de son maître. Yoda, en sanskrit, signifierait « guerrier », même si certains linguistes estiment que ça peut aussi signifier « pâquerette », ce qui serait un peu moins impressionnant pour un chevalier Jedi. Longtemps, naïvement, j'ai cru qu'un humain se cachait à l'intérieur de Maître Yoda, une sorte de nain.
Nicolas Sarkozy.
Non Stéphane, un peu de respect s'il vous plaît, pour les idées, du moins pour la fonction présidentielle, merci. Non, de toute façon, il n'y a jamais eu personne dans Maître Yoda, de même que, probablement, vu sa gueule, Maître Yoda n'a jamais été dans personne. Petit scoop anatomique, les amis Castello, qui ne manquent pas une occasion de rappeler à quel point il est bilingue, parlerait de fun fact. Maître Yoda est comme Mike Horn. Il n'a pas toujours le même nombre d'orteils. Dans l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi et la revanche des Sith, il en a 4. Pourtant, dans la menace fantôme, il en a 3. Quant à ses yeux, là, il en a 2. Mais savez-vous d'où ils viennent? Essayez de visualiser Maître Yoda.
Oui, il a les yeux très écartés l'un de l'autre.
Les yeux de Maître Yoda ont été inspirés par ceux d'Albert Einstein pour, d'après le réalisateur, lui donner un air intelligent et sage, suffisant pour compenser le fait qu'il parle à l'envers. On ne sait pas le côté obscur de la Force. Redouter tu dois, qu'en 900 ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras. T'aider je puis, ton père il est... Partez quand même de loin niveau éloquence, Maître Yoda. Ah oui. Avec tous ses défauts qu'il a réussi à convertir en autant de force, il me fait penser à quelqu'un, mais qui ?
Moi ?
Son âge canonique aussi me fait penser à cette personne dont je suis à la fois le disciple et aussi l'auxiliaire de vie au crépuscule de la sienne. Mais qui est-il ? En tout cas, Maître Yoda est parti en paix dans son sommeil à 900 ans passés. Saviez-vous qu'il dormait toujours assis ? Ah oui, décidément,
ah oui.
Des phrases étranges, des postures physiques bizarres. Finalement, Stéphane, vous êtes un peu le maître Yoda d'Europe 1. Vous dormez comment, vous ?
Le cul tourné vers la Lune. J'espère qu'ainsi, on capte mieux Europe 1.
Stéphane, tout le monde peut visualiser maintenant. Merci.
Merci, Mathieu. Alors bon, c'était à 99% vrai, c'est ça ?
C'était à 99% vrai, effectivement, à part les conneries sur Castello, qui est oui. beau comme un dieu. Il n'y avait aucune connerie dans cette chronique, puisqu'il y en a suffisamment dans la vraie histoire de Maître
oui.
Jedi.
C'est qu'on a appris que j'étais moche et que vous étiez vieux, Stéphane.
C'est deux choses qui sont tout à fait fausses, et les gens peuvent se renseigner en tapant sur Wikipédia vos noms. Ils verront des belles photos et un âge bien en dessous des 70 que j'ai annoncé l'autre jour.
Donc il est vrai que vous utilisez les préservatifs Chewbacca. Ça, c'est bien vrai, donc.
Eh oui.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Dernière demi-heure d'Historiquement vôtre, le moment où le passé éclaire notre quotidien, avec celui qui est toujours à l'heure, ce qui, sachant qu'il porte une montre dont le prix équivaut au PIB du Benelux, est un minimum, notre dandy lusitanien, le Gatsby du Douro, David Kuchtelop.
Beaucoup question du Douro, il y a d'autres fleuves au Portugal.
Mais je ne connais que le Douro.
Non,
donc
vous connaissez
pas...
le Tage aussi.
Ah oui, le Tage, et voilà. Ça sonne moins, je ne sais pas.
C'est vrai, c'est vrai.
Le Douro, ça sonne bien portugais. Bon, alors allez-y, David.
Vous vous souvenez, au début de l'année, j'ai fait une chronique sur la fermeture éclair.
Comme, j'avais évoqué, comment l'oublier.
Oui, voilà. J'avais évoqué en particulier l'érotisme du bruit, du son de la fermeture éclair qui convoquait un monde de sensualité réussie. Souvenir. Non, vous êtes d'accord, c'est sensuel, non ?
C'est fou le néant que je lis dans les yeux d'Olivier Pouls. Ça ne vous inspire rien, le bruit d'une...
La sensualité, elle est que culinaire pour vous, c'est ça.
Là, on aurait dit la pétarade d'un vélomoteur.
Un petit peu, on comprend quelque chose.
Ouais, c'est vrai, j'ai pas tellement retrouvé... peut-être vous serez meilleur sur le velcro, on va voir.
mais c'est pas moi, c'est la fermeture. Écoutez, étendez vos horizons érotiques, qu'est-ce que je vous dis ?
Elle ferme, elle descend beaucoup trop lentement, moi c'est zip, zip.
Ah ben d'accord, non mais la rapidité
vous
peut avoir du
si beau, peu romantique, laissez parler David qui lui est un grand romantique.
Maintenant, moi, en tout cas, j'aime bien la sensualité de la fermeture éclair. Maintenant, le velcro, j'en ai amené un ici, fermez les yeux et dites-moi ce que ça vous évoque. Hein.
Qu'est-ce que c'est ? Moi ça m'évoque les scratchs des chaussures à scratch.
Ouais, exactement,
quand on savait
donc
pas
l'enfance.
Faire de lacets.
L'enfance.
Moi je me suis battu une fois à cause de ça.
C'est-à-dire ?
Ah oui ?
Ben, un gars, il arrêtait pas de m'enlever mes scratchs et je me suis battu.
Ah, c'était il y avait une violence.
Pourquoi il voulait vous enlever vos scratchs ?
L'enfance d'Olivier Pouls.
Mon Dieu, c'était terrible dans la
J'aimerais bien savoir pourquoi un enfant a envie de vous enlever vos scratchs.
Ben, je sais pas.
Comment il s'appelait ?
Il s'appelait Benoît, je m'en souviens.
Salut, ouais,
tu m'entends.
Si
toi,
tu m'entends,
ouais,
c'est que fait Darmanin.
En fait. Je peux reprendre, s'il vous plaît.
Pardon, David.
Je vous en prie.
Pardon.
Non, le scratch, ça évoque l'enfance, évidemment, parce que c'est quand on est enfant qu'on en a beaucoup. Parce que les enfants, c'est des personnes complètement incompétentes. Qui savent même pas enclencher une fermeture éclair ou faire leur lacet. Et donc, on leur donne le seul système de fermeture qu'ils sachent maîtriser, à savoir le velcro. Mais paradoxalement, ça évoque aussi le velcro, le high-tech. Les astronautes de la mission Apollo, par exemple, ils avaient du velcro partout.
Ah bon?
Les aviateurs, certains militaires pour fermer leurs poches et mettre leurs écussons. Et puis aussi le monde médical. Les appareils pour prendre la tension.
C'est vrai.
Eh ben oui, les ceintures de soutien lombaire, tout ça, voilà.
Bon, je suis pas encore là, Stéphane.
Donc de l'enfance jusqu'au troisième âge, le velcro est partout. Enfin, quand même, dans une certaine mesure, je suis obligé de dire que ça peut évoquer quand même un petit peu la chambre à coucher, puisqu'il y a certains accessoires, notamment des accessoires destinés à attacher les gens qu'on aime, qui utilisent le velcro.
Ah
c'est
bon
pas une information personnelle, j'ai juste entendu
parler. Je ne connais pas.
Mais alors,
je connais pas non plus.
D'où ça vient le velcro? Alors c'est assez sympa, comme je disais tout à l'heure, parce que pour le coup, c'est une histoire claire et précise. C'est un ingénieur suisse.
Ah bah lui, il a déposé.
Voilà.
C'est carré chez nous.
C'est un ingénieur suisse.
Si tu...
Exactement. Tu vas
faire du bénéfice derrière. Ouais.
Donc il s'appelait Georges de Mestral et un jour en 1941, pardon, il est parti faire une promenade avec son chien dans les prés et quand il est revenu, il a remarqué que ses vêtements et aussi les poils de son chien étaient couverts de petites boules super reloues à enlever. Ces boules, c'était les fruits d'une plante qui s'appelle la bardane. Mmh. Et Georges, il les a regardées au microscope et il s'est rendu compte qu'elles avaient des milliers de petits picots et au bout desquels il y avait autant de crochets minuscules qui s'accrochaient à tout et à n'importe quoi. Et là, il s'est dit, non mais je vais faire un système de fixation.
Il criait comme vous, de manière
exactement,
un petit
peu... c'est comme ça que j'imagine Georges, c'était un type qui avait des émotions. Il a travaillé dessus pendant 8 ans quand même. Il faut croire que c'est difficile d'imiter la nature. Et finalement, il a mis au point son produit et il a appelé l'entreprise destinée à le commercialiser, Velcro. Et oui, Velcro, c'est comme Kleenex ou Mobilette, c'est une marque. Est-ce que vous savez pourquoi Velcro d'ailleurs ?
Alors, pas du tout.
C'est un mot composé de velours et de crochet. c'est le velours accroché, velcro. Alors je le disais en introduction, le velcro a tout de suite vachement de succès, mais il est quand même devenu, il est vraiment devenu cool que dans les années 60, quand la NASA décide de l'utiliser pour les astronautes. Et pendant une courte période d'ailleurs, au milieu des années 60, c'est même devenu un accessoire de mode un peu tendance. Il y avait des défilés de grands couturiers avec des vêtements à scratch. Bon, ensuite, c'est quand même devenu un truc de bouffon, hein, faut pas non plus, voilà. Mais il y a quand même eu des choses très fun inventées avec le velcro, notamment des combinaisons tout en velcro avec lesquelles on peut sauter sur des murs et s'accrocher. C'est très, très fun. Génial, j'ai pas utilisé, mais j'ai vu des gens le faire et je pense que ce sera ma prochaine sortie après le confinement. Et finalement, il y a même l'armée américaine qui l'a utilisé à partir de 2004 pour ses tenues de combat. Mais le velcro pour les tenues de combat, ça a deux inconvénients. Un, ça gère super mal le sable. Or, les guerres des États-Unis depuis 20 ans,
c'est dans le sable.
Elles ont quand même vachement lieu dans le sable. Et deuxièmement, bah, ça fait du bruit. Et quand vous êtes en embuscade pour tuer des talibans cachés derrière un muret, c'est plutôt une mauvaise idée d'avoir des poches qui font un boucan du diable comme ça.
Tiens, Maurice, passe-moi la grenade.
Voilà, exactement. Enfin, okay. Et donc, l'armée américaine a abandonné le scratch en 2010. Dernière chose, on a déjà parlé des hipsters ici, hein, qui sont des machines à prendre.
Des hipsters comme vous.
Pas des millions comme ça. Mais c'est vraiment des gens qui prennent toutes les choses pas cool du monde et ils les transforment en choses cool de façon ironique. Eh bien, ça a pas loupé avec le velcro, hein. Il y a des collections hipsters qui en utilisent. Et d'après ce que j'ai compris, c'est maintenant même un peu cool d'avoir des chaussures à scratch.
Oui, ça revient.
Quand il y a des Benoît qui viennent vous les arracher, quoi.
Bah, merci en tout cas, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.
Votre estomac commence à crier famine et toujours aucune idée de recette au fond de votre cerveau fatigué, usé par une journée de télétravail. Olivier Pouls arrive.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane, je vous connais, je commence à cerner vos goûts et là je sais ce dont vous avez envie.
Enfiler des beignets.
Qu'est-ce à dire exactement, je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, comme moi, comme nos auditeurs, vous avez faim. Ça tombe bien, Olivier Pouls nous raconte l'histoire d'une recette et il nous la donne aussi, sinon ça serait vraiment cruel.
Bah oui,
qu'est-ce
qu'est-ce que vous diriez d'un petit soufflé?
Alors là, mon cochon, c'est pas ça. Les cannelés, vos conneries de trucs au citron, là, le soufflé au grand marnier, s'il vous plaît.
Ah, vous êtes plutôt
au soufflé
dessert ou soufflé
Les deux, mon capitaine. On commence par
un marnier, c'est vraiment le...
C'est le top, David est d'accord avec moi, mais on commence par un soufflé fromage et ensuite... Un
repas complet au soufflé.
Oui, c'est très possible, c'est très bon.
Soufflé au chocolat aussi, c'est très bon.
Oh oui, oui.
Le soufflé en tant que tel, c'est quand même un plat magique, parce que quand ça arrive sur la table, on est déjà tous... On a l'eau à la bouche, c'est tellement beau, c'est... Surtout, il faut se dépêcher de le manger parce que très vite, il retombe. Alors, le soufflé, c'est un plat qui existe depuis le début du XVIIIe siècle. Et on connaît, a priori, l'inventeur de ce plat. C'est un chef qui n'a pas beaucoup fait d'autre chose, qui n'a pas beaucoup laissé de traces, mais c'est déjà pas mal. Il s'appelle Vincent de la Chapelle. Et c'est à lui qu'on attribue les premières réalisations de soufflé. Celui qui l'a vraiment amélioré, qui en a fait un mets plus raffiné, plus connu et plus populaire, c'est Antoine Beauvillier. Et Antoine Beauvillier, lui, a laissé dans l'histoire une trace très importante, puisque c'est le premier à avoir ouvert un restaurant à Paris avant la Révolution. Parce que les restaurants n'existaient pratiquement pas, il y avait des traiteurs, mais le concept du restaurant...
Il n'y avait pas d'endroit où on se réunissait pour manger.
En fait, les restaurants sont nés du fait que les chefs à domicile ont été mis au chômage par la Révolution, que leur patron s'était fait raccourcir la tête, et donc ils ont ouvert leur premier restaurant.
Voilà, il y avait des tavernes, mais il n'y avait pas de restaurant.
Mais Stéphane, vous connaissez vraiment des trucs dingues.
Hein. Ouais, mais il connaît bien l'histoire.
Mais choses qui servent à rien.
Quand même, on n'est pas dans le quiz, mais mine de rien, c'est une bonne réponse. Lui, il ouvre juste avant la Révolution. Il a le nez un peu creux, visiblement. On est en 1782. Et donc, il ouvre au Palais Royal, un restaurant qui s'appelle le Beauvillier, et dans lequel il va notamment présenter des soufflés. Ça va être d'ailleurs l'un des plats phares de sa carte. Alors, pour faire un soufflé, c'est pas très compliqué, c'est juste une question de précision. Alors, je vais vous donner la recette d'un traditionnel soufflé au comté, qui est un de mes préférés, puis je vous expliquerai rapidement comment on peut le faire en version sucrée. Donc, pour réaliser ce sucré, il faut faire ce qu'on appelle une béchamel. Alors, on en a déjà parlé ici. Donc, c'est un temps portant de beurre et de farine, 30 grammes de beurre, 30 grammes de farine. On va y ajouter 25 centilitres de lait. Et ensuite, on va rajouter des jaunes d'œufs et des blancs, mais séparés. Et alors là, l'astuce, c'est qu'il faut plus de blancs que de jaunes. Je vais prendre trois jaunes d'œufs.
C'est bon pour les muscles en plus, pour les protéines.
Ben oui. Trois jaunes d'œufs que je rajoute dans ma préparation avec 75 grammes de comté râpé. Les blancs d'œufs, qu'est-ce que je fais? je les monte en neige, je mélange tout, un petit peu de sel, de poivre, de noix de muscade, et je vais mettre ça dans des petits ramequins individuels. Petite astuce, il faut légèrement les beurrer et légèrement les fariner pour éviter que ça ne colle trop et qu'on puisse profiter de tout le soufflé.
Ah oui, sinon ça c'est très désagréable quand on ne veut pas profiter de tout le soufflé.
Bah non, ça brûle sur les bords, il y a des bouts. Voilà. Ouais. Et alors la cuisson au four, c'est très précis, c'est 30 minutes à 180 degrés. On n'ouvre surtout pas le four parce qu'on prend le risque à ce moment-là que le soufflé puisse retomber.
C'est la cata, moi j'ai fait ça un jour.
Il faut bien garder l'humidité dans le four, donc on n'y touche pas. 30 minutes, 180 degrés et là on passe immédiatement à table. Et on a un soufflé. Alors, si on veut faire une version chocolat ou une version grand marnier, je mettrai la recette complète sur europe1.fr. Mais là, on va aromatiser. On va pas mettre de fromage, évidemment. On va rajouter du sucre. Et on va rajouter, évidemment, soit un trait de grand marnier, soit on va faire fondre du chocolat qu'on va rajouter au mélange.
Stéphane, je vous demande de désannoncer parce que je ne suis plus en état. Je suis à deux doigts de
trahir. Merci beaucoup, Olivier Pouls. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'europe1.fr. Et bon appétit à tous.
Oh là là, oui, on a tellement faim. Comme moi, vous employez souvent des expressions sans savoir d'où elles viennent. Comment elles se sont forgées au fil des siècles? Comblons cette lacune grâce aux mots de la fin de Stéphane Bern. Aujourd'hui, Stéphane, des mots autour de la beauté.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Regardons les choses en face. Certains dans notre équipe brillent plus par l'esbrouf que par leur maîtrise du français. CF Kstelopsch.
Si je vous donne un Rubik's Cube et que je vous demande de le résoudre, vous l'avez jamais vu de votre vie et je vous demande de le résoudre, eh ben, il y a à peu près zéro chance que vous y arriviez jamais.
Bah, si, il y a toutes les chances, hein. Moi, je suis incapable de mettre un Rubik's
Cube. Mais oui, mais en fait, vous y arriverez pas, ça.
Ah, pardon. Ah oui, j'ai cru que vous voulez dire qu'il y avait zéro chance.
Il y a zéro chance pour que vous y arriviez. Oui, oui,
c'est ça. S'il y a zéro chance pour que vous y arriviez, ça veut dire que, ah oui, non, ça, oui. Là,
mais je pense que c'est ça que j'ai dit, hein. Oui, oui. Et ben, il y a à peu près zéro chance que vous y arriviez jamais.
Heureusement, pour recadrer les handicapés du Becherel, il y a le fin mot de Stéphane Bern. Chaque jour, l'histoire d'un mot ou d'une expression maître, nous vous écoutons.
C'est l'anniversaire de Sophie Marceau, ça ne vous a pas échappé.
Et quand même... j'ai oublié de lui envoyer un texto.
Oui, c'est quand même la beauté.
Vous pouvez me redonner son numéro, je l'ai perdu.
Oui, redonnez-moi 0624.
Eh bien, aujourd'hui, on s'est posé des questions sur les expressions autour de la beauté. Pourquoi dit-on beau comme un camion?
Alors ça.
Oui, alors ça paraît étrange, c'est ma façon à moi de rendre hommage à la beauté charmante et absolue de cette femme, qui en plus est une actrice au talent prodigieux.
Oui, bon, Stéphane, calmez-vous, beau comme un camion, d'où ça vient?
J'y viens, mais notez aussi qu'on dit être beau comme un cœur.
Ça, on comprend.
Beau comme le prince de Galles.
Alors ça, non.
Rien à voir avec les oreilles du prince Charles, je vous le dis tout de suite. En fait, c'était élégant comme le prince de Galles, le fils de la reine Victoria, Édouard VII. Bon, revenons plutôt à Sophie Marceau.
Oui, vous vous égarez, Stéphane. Revenons à Sophie Marceau et surtout à l'expression « beau comme un camion ».
Eh bien, je vais peut-être vous décevoir, mais personne n'en sait rien.
Oh bah, non,
on ne sait pas pourquoi.
C'est quand même le summum du suspense de l'émission. C'est
oui,
maintenant le
écoutez,
moment.
Écoutez, tout le monde dit beau comme un camion. Par exemple, en Argentine, on dit es un camion. C'est un camion. En Espagne, ah ça, es un tren.
Quand on voit un camion, on ne parle pas de la beauté.
Non, on parle de la beauté.
Bon.
En Argentine aussi, on dit beau comme un camion. En Espagne, on dit beau comme un train. Alors, je sais pas si ce que tous ces moyens de locomotion viennent faire dans cette valse des compliments, d'autant que pour souligner la beauté d'une dame en France, on dit aussi « c'est une bombe » ou « c'est un avion de chasse ». Oui. Bon, la beauté est parfois source de méfiance. Une belle de nuit, en argot, est une prostituée qui travaille de nuit. Et une belle de jour est une prostituée qui travaille
de jour.
Bravo.
Ah, j'ai
terminons
bon.
Par un compliment de Paul Morand. Elle était belle comme la femme d'un autre. Quoi qu'il en soit, souhaitons un très joyeux anniversaire à la sublime Sophie Marceau.
Paul Morand, l'homme pressé. Stéphane, j'arrive pas à croire qu'on n'ait pas eu l'explication de l'expression.
Non, on ne sait pas.
Remboursé.
Bon, remboursé. Remboursé, Stéphane.
On va faire toutes les langues disent beau comme un train, beau comme un camion.
Oui, on a compris, mais on ne sait pas d'où ça vient. Notre spécial consacré aux grands avocats de l'histoire se termine. Alors Stéphane, quel maître vous aura le plus épaté finalement? Est-ce que c'est Maître Berryer, Maître Halimi ou Maître Yoda?
Bon, Maître Yoda m'a beaucoup amusé, je dois vous le reconnaître. Évidemment, j'étais très ému par le récit d'Annick Cogent sur Gisèle Halimi. Et c'était pas mal aussi de reparler de la conférence Berryer avec Emmanuel Pierra.
C'est
donc,
vrai.
Un en très fait, bon
vous
programme.
Vous trouvez que notre émission était excellente, vous pouvez le dire.
Mais j'aime bien votre émission, c'est, Mathieu.
Elle est bien cette émission, hein. On est vraiment
est
un
pas
très,
mal,
très
ouais.
bon niveau.
Et justement, plus j'y participe, plus je l'aime.
Est-ce que vous connaissez déjà le programme qui nous attend demain, Stéphane?
Oui, demain, Mathieu, on réunit des amis.
Des amis à vous?
Non, des amis improbables.
Oui, c'est bien ce que je dis.
Non, des amis dont l'amitié était peu probable. Et pourtant, Claude Monet, Georges Clemenceau, Édith Piaf et Jean Cocteau.
Ou encore Kim Jong-un et le basketteur Dennis Rodman.
Exactement. Alors à demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.